Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil à tous. Bienvenue dans Apolline Matin si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 18 juin, jusqu'à 39 degrés dans le centre de la France. Plus chaud et partout. Alors comment s'adapter? Il faut repenser nos logements, nos bureaux, nos écoles. Voilà ce que nous expliquera un ingénieur climatique dans 10 minutes sur RMC. Et puis j'attends vos témoignages. Comment est-ce que vous gérez ces vagues de chaleur à répétition? Est-ce que vous avez changé vos habitudes, vos horaires? Vous nous appelez au 3216 ou vous nous écrivez 0612 424 424. Et puis cette question à la une, la fête de la musique, est-ce que c'est politique? Pour LFI, c'est oui. Pour la préfecture de Paris, c'est non. LFI qui prévoyait une grande soirée de concerts et de prise de parole militante place de la République dimanche soir pour la fête de la musique, interdit. La députée LFI Alma Dufour répondra à mes questions à 7h40 sur RMC. Et puis je vous attends aussi, est-ce que vous comprenez que ce concert militant ait été annulé? Est-ce que c'était le lieu, le jour? Est-ce que vous envisagiez de vous y rendre? Vous nous appelez au 3216. Je poserai aussi la question, tiens, à mon invité à 8h30, la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Elle est aussi ministre de l'énergie. Les prix à la pompe vont baisser. Voilà ce que promet Emmanuel Macron. Mais quand? Réponse donc à 8h30 sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. Et puis c'est l'événement sur RMC. On continue à vous mettre beaucoup d'argent dans la cagnotte. La prime de match avec les matchs de la nuit. Le montant de la prime est, au moment où on se parle, de 67 500. Retenez bien ce chiffre, 67 500. Il y aura une alerte d'ici 9h pour pouvoir jouer et un nouveau tirage au sort aujourd'hui à 18h. Si vous avez en tête le montant de la prime de match, 67 500, elle sera pour vous. C'est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h. Mais d'abord, la météo, évidemment, et cette vague de chaleur qui se poursuit, Lou Garnier.
Oui, 26 départements placés en vigilance orange canicule par Météo France aujourd'hui. Ça concerne l'Île-de-France, le centre et l'est du pays. Et puis 43 départements en vigilance jaune canicule. Seule la pointe bretonne et le pourtour méditerranéen vont rester en vert. À l'heure où je vous parle, il fait 14 degrés à Rouen, 18 à Nîmes et Lyon et jusqu'à 22 degrés à Nice. Les températures montent cet après-midi. On est entre 8 et 15 degrés au-dessus des normales de saison. On aura 38 degrés à Périgueux et Auxerre et jusqu'à 39 degrés à Melun. Une chaleur qui va perdurer demain, jusqu'à 38 degrés attendus localement entre le centre, l'Île-de-France, la Champagne et la Bourgogne. Et toujours des nuits suffocantes, notamment dans les grandes villes où on ne descend pas en dessous des barres des 20 degrés. Et pour le moment, on ne sait pas quand cette vague de chaleur va prendre fin. Le pic des températures est attendu lundi. On pourrait frôler les 40 degrés notamment.
Très bon réveil à tous. Il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est signé, Américains et Iraniens ont paraphé le protocole d'accord pour la paix au Moyen-Orient. Et c'est depuis Versailles, à la surprise générale, que Donald Trump a signé son exemplaire. RMC y était. La chaleur qui va gagner en intensité, il fait déjà très chaud ce matin. Nous irons à Lyon, dans le Rhône, l'un des 26 départements en vigilance orange à la canicule. Et la mort d'Éric Roy, l'entraîneur de Brest, a perdu son dernier match contre la maladie. Il avait 58 ans.
La paix au Moyen-Orient.
Le protocole d'accord a été signé hier soir à distance entre l'Iran et les États-Unis. Il prévoit la fin totale des hostilités, la levée du blocus des ports iraniens par les États-Unis qui s'engagent de leur côté à faciliter le déblocage de 300 milliards de dollars en cas d'accord définitif. L'Iran, de son côté, s'engage à diluer son uranium enrichi et de fait renoncer au nucléaire. Donald Trump, je vous le disais, il a paraphé son exemplaire depuis le château de Versailles lors d'un dîner organisé par Emmanuel Macron. Thomas Baker du service politique RMC hier. Était une signature qui n'était pourtant pas prévue au protocole, Thomas.
Donald Trump vient de boucler une courte visite de la Galerie des Glaces. Il s'installe à table, on entend le bruit des couverts. Et là, son ministre des Affaires étrangères lui apporte une copie de l'accord qu'il signe sous les yeux d'Emmanuel Macron.
Bravo!
Donald Trump prend le document en photo, l'envoie aux Iraniens. En coulisses, même les équipes de communication d'Emmanuel Macron sont étonnées. À la sortie, le président, lui, se félicite de l'accord.
Un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
Emmanuel Macron insiste en expliquant que l'accord bénéficiera aussi aux Français.
Enfin, c'est un moment de paix et une bonne nouvelle. nouvelle pour beaucoup de nos compatriotes parce que les prix, normalement, du carburant aussi vont baisser, les prix du gaz.
Cette signature inattendue dans la nuit versaillaise offre une occasion à Emmanuel Macron de répondre à ceux qui lui reprochent d'avoir reçu Donald Trump en grande pompe. Versailles est un lieu qui inspire, dit-il, ça rappelle la force de l'histoire.
Et vous avez entendu Emmanuel Macron qui dit c'est une bonne nouvelle aussi parce que les prix à la pompe vont baisser. Et la question, je la poserai à la ministre de l'énergie. Elle sera sur RMC et BFM TV, mon invitée à 8h30.
Et une cérémonie de signature doit désormais se tenir demain en Suisse pour commémorer l'événement. Aussi donner le coup d'envoi des discussions techniques 60 jours pour aboutir à un accord final. De la région parisienne aux Alpes, la vague de chaleur s'intensifie dès la mi-journée. 26 départements seront en vigilance orange à la canicule, moins d'un mois après un premier épisode inédit pour la saison. Ce nouveau coup de chaud va s'inscrire dans la durée jusqu'en début de semaine prochaine à minima. On attend jusqu'à 37 degrés ce jeudi à Lyon. Caroline Renaud, vous êtes sur place ce matin en direct pour RMC Le Rhône, où de nombreux dispositifs anti-chaleur ont été déployés dans plusieurs communes, Caroline.
Oui, ici, les premiers réveillés ont sorti les shorts et les gourdes car la chaleur est déjà bien installée et la ville se réveille sans la fraîcheur habituelle du matin. C'est justement pour ça qu'une salle climatisée va ouvrir d'ici une heure dans la mairie du 7e arrondissement de Lyon. Les parcs, eux, resteront ouverts jusqu'à minuit et plusieurs piscines ont élargi leurs horaires. À Vénissieux aussi, ça s'active depuis ce matin. Les habitants inscrits sur le registre communal sont appelés un par un. L'objectif, s'assurer que tout va bien et pour les plus fragiles, des distributions d'eau sont prévues à Villeurbanne et à Villefranche sur Saône, où l'on pourrait atteindre les 37 degrés. Plusieurs résidences climatisées ouvrent leurs portes à tous ceux qui cherchent un peu de fraîcheur. Même dispositif à Bron, où les plus vulnérables peuvent être pris en charge à domicile. Et puis, la préfecture du Rhône rappelle aussi quelques bons réflexes. Boire de l'eau régulièrement, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et manger suffisamment.
Caroline Renaud, en direct de Lyon ce matin, notez qu'il est aussi déconseillé de faire de l'exercice en extérieur. De nombreux événements prévus ce week-end ont été annulés. C'est le cas aussi de certains concerts prévus dimanche pour la fête de la musique. Autre événement annulé, et ce n'est pas le fait de la chaleur, mais de la préfecture de police de Paris. Elle interdit le concert de la France Insoumise prévu dimanche, place de la République à Paris, en raison de troubles à l'ordre public. Décision que le parti de Jean-Luc Mélenchon a décidé de contester en déposant un recours. Cyprien Pézril avec Victor Girard.
Des rappeurs, une drag queen et des prises de parole politiques, voilà le programme initial présenté par les Insoumis. Mais ce qui pose problème à la préfecture de police, c'est la présence aussi d'Assa Traoré et du rappeur Medine, à qui il reproche des propos incitant à la haine, avec le risque, assure le préfet, d'attirer un public hostile aux forces de l'ordre. Ces dernières heures, beaucoup, dont Ariel Veil, maire PS du centre de Paris, où se trouve la place de la République, réclamait cette interdiction.
Je suis plutôt soulagé, moi. Je pense que dans un contexte où il y a du monde partout dans la rue, si on doit en plus avoir des forces de police qui font face à un concert politique, ça me paraissait très très compliqué et plutôt des ingrédients pour un potentiel désastre. Voilà, le risque qu'il y ait vraiment des blessés, des morts.
Scandale démocratique, s'indigne Adrien Clouet, député LFI et proche de Jean-Luc Mélenchon. Son parti demande à la justice en urgence d'autoriser la soirée.
Il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression. Nous, lorsqu'on fait un événement d'une grande ampleur, on a généralement à peu près une centaine de personnes pour sécuriser et organiser l'ensemble de la gestion de la foule. Évidemment que, pardon, on sait gérer un concert et peut-être même qu'on sait mieux le faire que le préfet de la police de Paris.
Et le tribunal administratif de Paris devrait trancher dans les toutes prochaines heures.
Et la députée LFI, Alma Dufour, sera mon invitée à 7h40 sur RMC. Et puis je vous attends au 32-16. Est-ce que vous comprenez que la préfecture de Paris ait annulé ce concert militant dimanche soir organisé par LFI? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne comprenez pas cette décision? Je vous attends au 32-16.
Il est 7h06 sur RMC. Le parquet de Paris va faire appel de la relaxe d'un animateur du périscolaire parisien. L'homme d'une quarantaine d'années est poursuivi pour harcèlement et agression sexuelle sur 9 jeunes filles mineures, toutes élèves de CM2. On en vient aux aveux d'un jeune mineur qui a reconnu le meurtre d'une octogénaire la semaine dernière au bord d'un étang à proximité d'un camping du Gros du Roi dans le Gard, un jeune garçon de 15 ans qui a donc, Maxime Cluyer-Ruzard, reconnu les faits.
Oui, peu après le début de sa garde à vue, mardi, l'adolescent a reconnu avoir tué l'octogénaire. L'autopsie de la victime menée la semaine dernière laissait peu de doutes sur l'origine criminelle, évoquant un décès à la suite de plusieurs coups et l'usage d'au moins une arme par destination. Après les faits, plusieurs témoins auraient aperçu un homme muni d'une perceuse, rapporte la presse locale. L'adolescent interpellé est inconnu des services de police et de justice, mais un point commun a été relevé par les enquêteurs. Ce jeune de 15 ans habite et est scolarisé dans un collège à proximité de l'étang où a été retrouvé le corps de la victime.
Jusqu'au bout, il aura lutté. Eric Roy est mort, passé par Marseille, Lyon et Nice. Le consultant RMC lors de l'Euro 2024 s'est battu contre la maladie à l'abri des regards. Son courage, David Alias, est salué ce matin par le monde du foot. L'entraîneur de Brest qui était encore sur le banc pour la dernière journée de Ligue 1 fin mai.
C'est un cancer du pancréas qui a emporté Eric Roy à l'âge de 58 ans. Une maladie contre laquelle il se battait depuis plus de 3 ans avec une force impressionnante, a précisé sa fille. Une maladie que ses proches, son staff et ses joueurs connaissaient. Et il s'était même confié à certains de ses cadres sur la gravité de son état, racontait son capitaine Brendan Chardonnay hier soir à l'antenne d'RMC.
Compliqué à trouver les mots, savoir quoi dire, mis à part le remercier de tout ce qu'il a pu faire pour nous tous. Et c'est quelqu'un qui a toujours voulu masquer sa maladie. Il en a jamais parlé au groupe officiellement.
Mais l'ancien milieu de terrain, passé notamment par l'OM, n'avait jamais fait part publiquement de sa maladie et souhaitait continuer à entraîner le Stade Brestois normalement. Troisième du championnat pour sa première saison, il avait fait découvrir au club la Ligue des Champions en 2024. Sur Instagram, le club breton a rendu hommage à son coach, aimé et respecté des supporters, et qui a contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire du club.
Et un hommage lui a été rendu hier par les Bleus qui ont respecté une minute de silence au lendemain de leur victoire face au Sénégal. Les remplaçants ont disputé un match amical face à une équipe locale avant une soirée libre en présence de leur famille. Pendant ce temps, l'Angleterre a frappé fort en battant la Croatie 4-2. Le Portugal déçoit, match nul un partout face à la République démocratique du Congo. Cette nuit, le Ghana a battu le Panama 1-0 et la Colombie, vous l'avez vécu sur RMC, l'emporte 3-1 face à l'Ouzbékistan.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08 sur RMC. Et évidemment, vous le disiez Thibaut, cette très forte vague de chaleur, 39 degrés à Montluçon, probablement autour de 40 degrés ce week-end dans la région parisienne. Une nouvelle vague de chaleur qui traverse donc la France. Et il va falloir s'y habituer. Alexandre Florentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en sécurité climatique. Vous travaillez sur ces questions depuis des années. Logement, bureau, école, horaire, rapport même à l'été. Il va falloir s'adapter. Il va falloir tout repenser. Voilà ce que vous nous dites dans un instant. Je vous attends au 32-16, 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Deuxième vague de chaleur en moins de 3 semaines sur une très large partie du pays. 26 départements en vigilance canicule dès aujourd'hui. Alexandre Florentin, bonjour. Vous êtes ingénieur en sécurité climatique. Vous avez fondé le mouvement Demain 50 degrés. En gros, il va falloir s'adapter. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut tout repenser. Il est 7h13 là. Les familles sont en train de prendre le petit-déj. Les enfants partent à l'école. On fait quoi? Est-ce qu'on les laisse partir dans des écoles qui, pour la plupart, sont devenues vraiment des sortes de pièges et de fournaises?
Sacré dilemme, hein. Encore hier, un parent d'élève me disait que dans la canicule précédente, son fils saignait du nez tous les jours à cause des températures dans sa classe. Donc, la canicule précédente, c'était un des collégiens que j'entendais dans un parc dire qu'ils allaient sécher l'école à cause des chaleurs. Donc on est dans des dilemmes comme ça de santé versus aller à l'école pour...
On adapte quoi? On adapte le bâti, on adapte les horaires, comment on fait?
Il faut jouer sur tous les leviers à l'heure actuelle, surtout quand là on est dans l'urgence absolue. Il faut absolument utiliser par exemple des couvertures de survie pour faire servir de protection solaire. On a des parents d'élèves qui ont fait ça, ils ont permis de gagner 4 degrés dans une classe de manière quasi instantanée. Vous les collez à l'extérieur des fenêtres, l'effet est quasi immédiat, c'est comme si vous débranchiez un radiateur qu'on aurait mis dans la classe à cause du soleil.
Et ça coûte pas très cher.
Ça coûte pas très cher. Dans l'urgence, c'est le genre de solution qu'il faut faire. Il y a quelques jours, on aurait dû lancer l'alerte au niveau de l'État pour aérer la nuit, parce que là, vous gagnez aussi quelques degrés quand
pour dire dans tous les bâtiments publics d'aérer toute la nuit.
Là, on parle de l'école, mais c'est aussi à l'hôpital. Ça peut être aussi dans des bâtiments publics comme des bâtiments d'administration, de préfecture. Tous ces bâtiments-là, ils sont pas prévus pour. Et là, on en fait des pièges thermiques.
L'été, jusqu'à présent, c'était une saison de plaisir. Et pour vous, c'est en train de devenir un cauchemar?
Pour moi, mais j'ai aussi plein de gens autour de moi qui me disent craindre l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on change de vocabulaire parce qu'il y a une sorte de sur-été qui arrive. Vous imaginez si on a 40 au mois de juin, ça va ressembler à quoi le mois de juillet et le mois d'août demain?
Comment est-ce qu'on peut agir sans que ça coûte des milliards? Vous disiez éventuellement donc cette idée toute simple d'aérer dans les jours qui précèdent pour que les bâtiments aient emmagasiné cette fraîcheur. Vous parlez de ces couvertures de survie qui sont des choses qui coûtent très peu cher, qui se déplient en un instant et qu'on peut mettre sur les fenêtres. Qu'est-ce qu'il faut également avoir adapté, je disais, les horaires? Est-ce que l'école devrait par exemple être plus tôt le matin avec une vraie pause à l'heure du déjeuner?
Vous avez des pays du Maghreb qui font ça. Quand la période chaude arrive, l'école commence une heure plus tôt. C'est des choses qui avaient été discutées à la convention citoyenne sur les horaires et les rythmes scolaires. Le président Macron a plutôt choisi de dire on réduit les journées et on n'a qu'un mois de vacances. Bon, bah ça ne marche pas dans le nouveau régime climatique.
Dans le nouveau régime climatique, c'est ça que vous dites également. Il y a Vincent qui est avec nous en direct du Tarn. Bonjour Vincent.
Bonjour ma Pauline.
Comment ça va Vincent? Vous êtes au volant, je sens. Soyez prudent.
Attendez. Ouais, non, je suis dans ma mini-pelle en fait.
Bon, ok. Parce que vous bossez en extérieur, vous êtes technicien dans des jardins, c'est ça, dans des espaces verts?
Alors, ouais, moi j'ai une entreprise, je suis spécialisé dans les clôtures en fait.
D'accord.
Voilà. Donc on bosse limite Tarn Aveyron. Alors chaque année, on a cette problématique de la chaleur parce que c'est vrai que ça monte très vite. Mais bon, eh ben, on s'adapte. Je veux dire, on attaque très très tôt le matin et à 2h on arrête et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein.
Ça veut dire que là, vous avez commencé à quelle heure par exemple, Vincent?
On avait rendez-vous à 5h au dépôt, on est sur chantier à 6h. Bon, okay. Après, la problématique qu'on a, c'est en milieu urbain parce qu'on se fait un peu engueuler parce qu'on fait du bruit. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, on le dit aux voisins qu'on va faire un peu de bruit et puis c'est tout. Hein. Ouais. Donc, on ne peut pas faire autrement. Alors, l'hiver, il y a la neige, l'été, il fait la chaleur, mais il faut bien qu'on continue à bosser. On n'a pas trop le choix, quand même.
Hein. Donc, pour vous, Vincent, c'est pas non plus un drame. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. J'entends dans votre voix que bon, c'est pénible, mais bon, ça fait partie.
Ben, j'ai vraiment l'impression qu'on entend surtout les gens qui sont en ville se plaindre. Nous, à campagne, la vie, elle continue. Je veux dire, il fait chaud, on travaille. Il fait froid, on travaille. Et puis, c'est comme ça, on s'adapte, quoi. Je veux dire, on n'entend jamais se plaindre les gens du Tarn, de la Lozère et du Cantal, quoi. Je veux dire, c'est tout le temps les urbains qui se plaignent. Nous, on fait notre travail. Et c'est tout. On n'a pas le choix, on avale ça.
Vous étiez adapté. Alors après, il y a effectivement une problématique aussi du bâti en milieu urbain. Mais ça veut dire, Vincent, par exemple, vous travaillez en équipe, j'imagine, il y a des salariés. Ouais. Tout le monde est OK pour adapter les horaires quand il fait chaud.
Ben ouais, et puis je veux dire, on est content de rentrer à 2h, on va faire la sieste et puis voilà quoi.
Ouais, ça. Après, donc votre journée, elle est finie à 14h.
Ouais, après je veux dire, si on travaillait l'après-midi, on serait pas en canne, quoi. Je veux dire, à l'après-midi, il fait tellement chaud, on rentre, on est épuisé, quoi. Donc, on s'arrête demi-heure à midi, et puis on mange vite fait, et puis on repart au table jusqu'à 2h, 2h30, quoi.
D'accord, voilà. et après, effectivement, il faut récupérer et se reposer. Merci beaucoup, Vincent. Quand on entend Vincent, Alexandre, Florentin, qui dit, bah voilà, on adapte nos horaires, c'est le bon réflexe.
Tout le monde se débrouille, bien sûr. Et ça permet d'éviter des morts. À la dernière canicule, on a quand même eu un couvreur de 19 ans qui est décédé. Peut-être aussi parce que
ça a fait partie,
pas eu d'adaptation.
Et d'ailleurs, ne manquez pas à 7h50 la voix de gauche Cécile Duflot tout à l'heure qui nous dévoilera le rapport de son ONG Oxfam sur les conséquences des canicules sur notre santé. Alexandre Florentin, hier, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a annoncé qu'il y aurait une TVA réduite sur les pompes à chaleur, qu'il y aurait des facilités pour les copropriétés. Il en avait déjà parlé, mais il essaie de rendre la chose plus concrète. Pardon, mais une question, pourquoi pas la clim pour tous?
Parce que déjà ça prend
j'ai
du temps.
Je vous
en fait.
Choque. Je suis désolée. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. J'étais la correspondante pendant 3 ans. Il fait extrêmement chaud, mais ce n'est pas une question parce qu'en fait, il y a du chauffage l'hiver, il y a de la clim d'été. Je me souviens de ma grand-mère qui me disait, quand on était petit, il y avait pas de chauffage. Mm-hmm. Et certaines maisons, petit à petit, ont mis ce qu'on appelait le chauffage central. Mais c'était une révolution. Oui. Avant, on n'avait pas le chauffage. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des clims pour tous de manière démocratique aux États-Unis? Vous pouvez pas louer un appartement sans chauffage, mais sans clim.
En fait, ça prend du temps d'installer des climatisations. Là, on est dans l'urgence. L'année prochaine, vous n'aurez pas le temps de climatiser toutes les écoles, tous les hôpitaux. Donc, on va aller vers ça. Ça fait partie de l'arsenal et vous faites bien le parallèle avec le chauffage. Avant de mettre du chauffage, on se dit, on va mettre un pull et on va apprendre à fermer la fenêtre. Sur la climatisation, on va mettre des stores extérieurs pour éviter que la chaleur rentre. On va apprendre à vivre avec la chaleur et la climatisation fait partie de l'arsenal. Et ensuite, dans la climatisation, il y a plusieurs technologies. Il y en a qui posent plus de problèmes que d'autres. Par exemple, des climatisations à base de géothermie ou avec l'eau de la Seine.
Il y a désormais des systèmes qui permettent que la clim ne soit pas aussi polluante qu'elle ne le fut.
Oui, il y en a. Et donc, c'est cela qu'il faut favoriser. Mais on ne s'en sortira pas uniquement avec ça. La climatisation, elle va pas résoudre le problème de ce monsieur qui, pour l'instant, arrive à s'adapter avec des horaires. Mais demain, parce que là,
demain, 50 degrés, pour reprendre le nom de votre mouvement, de votre think tank, évidemment, ce sera beaucoup plus difficile. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Alexandre Florentin. Vous êtes ingénieur donc en sécurité climatique et je le rappelle, cofondateur de ce mouvement. Demain, 50 degrés, 7h20. Arthur Chevalier est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, je voudrais que vous écoutiez ce que disait à mon micro hier la présidente de l'Assemblée nationale.
Il ne faut pas politiser la fête de la musique. La fête de la musique, c'est une fête qui appartient à tous les Français. C'est un moment de joie, de fête collective, de partage.
Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que l'histoire donne raison à Yael Braun-Pivet, Arthur?
En tout cas, c'était une fête créée par la gauche au pouvoir, très critiquée par la droite. Sur le papier, c'était quand même une idée politique.
Et vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Maud Bréjon à 8h30. Il est 7h20, ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC et sur RMC Story, comme tous les matins, l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Hier soir, la préfecture de police de Paris a annoncé interdire le concert militant de la France Insoumise qui était prévu place de la République à Paris ce dimanche pour la fête de la musique. Une décision justifiée par des risques de troubles à l'ordre public.
Oui, et la France Insoumise a fait un recours contre cette décision. Pour rappel, ce concert, c'était la fameuse fête de la musique antiraciste prévue dimanche 21 juin, soit le jour de la vraie fête de la musique. Bon, c'était une sorte de contre-soirée organisée par Jean-Luc Mélenchon. Alors, à part le concert, il y avait quand même des prises de parole politiques qui étaient prévues, hein. Hier, à votre micro, Apolline, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, déclarait déjà qu'il n'était pas possible de récupérer la fête de la musique à des fins politiques.
Sauf qu'à l'origine, la fête de la musique, elle était politisée.
En tout cas, c'était formellement une création politique. C'était une idée de Jack Lang, qui était ministre de la Culture d'un gouvernement socialiste, nommé par un président socialiste, c'était François Mitterrand. Et en fait, Jack Lang, après avoir lu une enquête sur les pratiques culturelles, il avait découvert que 4 millions de Français jouaient d'un instrument. Donc là, il s'est dit, banco, on fait une fête. En 1982, il crée la fête de la musique, un événement gratuit, dédié à tous les musiciens, surtout amateurs. Ça sera le premier jour de l'été, le 21 juin.
Au début, ça n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde.
Ça n'a même plu à personne, en fait. L'événement a été annoncé très tard. Du coup, pour l'organisation, c'était le bazar total. À Paris, la préfecture a même essayé d'annuler l'événement. Les chaînes de télévision ont, quant à elles, refusé de s'associer à cette fête de la musique. Bref, pour beaucoup de gens, cette fête était ringarde avant même d'avoir commencé. Et Jack Lang a eu tellement peur que ça soit un flop qu'il a dit aux gens que ça ne durait qu'entre 20h30 et 21h, histoire de minimiser le risque. Finalement, le 21 juin 1982, au soir, c'est un triomphe, hein. 1 million de Français étaient au rendez-vous.
La droite était contre la fête de la musique.
Elle a même voulu l'interdire, la fête de la musique, Apolline. En 1986, la droite remporte les élections législatives, Jacques Chirac devient Premier ministre, et donc là, il veut changer de politique culturelle, et il pense sérieusement à ne pas reconduire l'événement. Mais c'est finalement son nouveau ministre de la Culture, pourtant de droite lui aussi, qui le convainc in extremis de maintenir une fête qui avait quand même la faveur du public. Mais entre nous, c'était moins une.
Et depuis, ça a été exporté. Il y a des fêtes de la musique partout dans le monde.
Eh oui, 2 ans après sa création, la Belgique crée sa fête de la musique. Ça arrivera ensuite en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Chine, aux États-Unis. Aujourd'hui, Apolline, 120 pays célèbrent la fête de la musique à travers le monde. C'est probablement le plus grand succès français de ces 45 dernières années.
Merci Arthur Chevalier. Tiens d'ailleurs, cette interdiction donc de cette fête de la musique, de ce concert militant de LFI, on y revient à 7h40 puisque la députée insoumise Alma Dufour répondra à mes questions. 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour,
à 8h30, tout à l'heure dans le face-à-face, mon invité c'est Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement.
Oui, que j'ai vu, qui est pas ravi. Essayons avec Maud, c'est toujours la même chose, quoi. Maud, elle est pas invitée à Versailles pour le dîner trop classe. Mais alors, par contre, pour se lever tôt et aller se faire pourrir par Apolline dans son studio à côté du périph, alors là, on retrouve voilà. Son 06 à Maud. Ouais. Franchement, je vais fuguer de ce gouvernement. Moi, ça va bien. Donc, c'est la porte-parole du gouvernement. Je suis sûr que pour faire plaisir à Trump, à Versailles, ils auraient été foutus de la déguiser en ménestrel. Ça aurait été génial avec un chapeau à grelots. Oyez, notre bon roué Emmanuel va souper avec le gouverneur de la colonie américaine. Alors, chance-t-on prestement ritournelle. M'en allant voir mamie. Oh, elle est rigolote. Vive Versailles, vive la France. Et il se fout de ma gueule en plus. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Mais surtout, Maud, elle est là pour l'annonce du jour. Le gag de la semaine, ça c'est hilarant. Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut faire des tests de dépistage de drogue aux membres du gouvernement.
Oui, c'est il incroyable. A commencé d'ailleurs,
paraît-il. C'est incroyable. Oui, il y a 15 jours apparemment. Mais c'est vrai que, vu ce qu'ils nous proposent tous depuis 9 ans, c'était important oui. De tester les drogues. Et alors là, soit les résultats sont positifs et c'est inquiétant, soit les résultats sont négatifs et c'est encore plus inquiétant en fait. Et alors, est-ce qu'ils vont tester Macron hein? Monsieur le Président, c'est quoi les rails là sur votre bureau?
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la drogue, c'est mal, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il serait pas temps d'introduire le dopage en politique. Dans le sport, oui, on a eu des performances incroyables. Le sport, c'était super.
Et oui, très belle performance de Lance Armstrong qui vient de boucler Paris-Roubaix en 17 minutes.
Vous voyez, c'était dingue. Alors un politicien sous coke, par exemple, il va bosser 23 heures par jour. La planète est sauvée dans 3 semaines. Notre-Dame aurait été reconstruite en 5 semaines. La paix au Proche-Orient. Elle peut revenir avec des bons gros joints. Oh, on est tous amis. Ça va, en tout cas, ça va pas donner envie aux députés LFI de devenir ministre, cette histoire. Mais je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Jean-Pierre Farandou, l'ancien président de la SNCF, je suis sûr qu'il se tape des rails. Laurent Panifou.
Il y en a un qui l'a eu.
Laurent Panifou, qui est drogué à la bonne huile d'olive de notre province. Et alors, Michel Fournier, on l'a testé, on n'a pas retrouvé de drogue chez Michel Fournier, mais une grande quantité de somnifères et des cordes dans sa camionnette blanche.
Oh non.
Ouf, il est clean, tout va bien. Et rendez-vous avec Maud Bréjon à 8h30.
À 8h30 et avec vous à 8h15. Il est 7h22, à tout de suite pour la météo du journal. 7h29, grande chaleur, Lou Garnier.
Oui, 26 départements placés en vigilance orange, canicule aujourd'hui par Météo France. Ça concerne l'Île-de-France, le centre et l'est du pays. Et puis 43 départements en vigilance jaune, canicule. Seule la pointe bretonne et le pourtour méditerranéen vont rester en vert. Ce matin, il fait 15 degrés à Rennes, 19 à Cognac et la maximale, c'est à Nice, où il fait déjà 23 degrés. Les températures grimpent. Cet après-midi, il fera 36 degrés à Paris et Bordeaux, 39 à Montluçon et on aura même des pointes jusqu'à 40 degrés comme à Vichy. Un mot pour ce week-end, la brève accalmie au nord de la Loire samedi, où les températures vont baisser un petit peu, mais ça reste chaud. Le pic de température sera dimanche et lundi, avec 40 degrés attendus dans plusieurs villes du sud-ouest notamment.
Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabier. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pour suivre les consommateurs de drogue jusque dans les ministères, Sébastien Lecornu demande d'instaurer des tests salivaires surprises pour les fonctionnaires, peut-être bientôt chez les salariés du privé. Cela va d'une parole déplacée à des palpations de seins sans autorisation. On vous dévoile la toute première étude nationale sur les violences gynécologiques, violences déjà vécues par plus d'une femme sur deux. Et puis toutes les stars du mondial ont brillé jusqu'ici, sauf une, Cristiano Ronaldo. Le Portugal a concédé hier le nul contre la République démocratique du Congo.
Il y aura donc bientôt des tests antidrogue chez les fonctionnaires.
Des tests salivaires inopinés et obligatoires dans les ministères, les préfectures, les administrations. C'est la consigne donnée par Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a lui-même été dépisté et qui se veut intraitable contre les consommateurs de drogue en donnant l'exemple donc d'abord chez les fonctionnaires avant peut-être de généraliser ces tests chez les salariés du privé, ceux qui ont des métiers à risque, comme les conducteurs de cars ou d'engins de chantier. Martin Lange, ils sont déjà susceptibles d'être testés.
Au volant de sa mini-pelle, Herman s'active pour refaire la chaussée. Ouvrier depuis 20 ans, il n'a jamais été soumis à un dépistage.
Si on n'a rien à se reprocher, il n'y a aucun souci à soumettre au test. C'est pas le jour où il y a un accident qu'il faut dire c'est trop tard, on aurait dû vérifier avant. On a des métiers physiques, on manie des engins et des choses dangereuses, donc il faut être clean.
Un peu plus loin, Carlos, électricien, est lui plus mesuré.
C'est du flicage, c'est sûr. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance envers les gars aussi.
Virginie Chevalier est la présidente de la Confédération des petites entreprises du bâtiment en Ille-et-Vilaine. Pour elle, imposer ces dépistages aux entreprises semble peu réaliste.
Dans les petites TPE comme les nôtres, je pense que c'est très compliqué à mettre en place. Les contrôles devraient être faits par un service extérieur, parce qu'une fois de plus, on reporte la responsabilité sur l'employeur.
D'autres secteurs sont plus en avance, comme le transport routier.
On est sur une majorité d'entreprises qui le font au moins une fois, voire plusieurs par an.
Erwan Poumerouli de la Fédération Nationale des Transports Routiers.
S'il y a une nécessité de faire des contrôles plus larges, il y a un surcoût qui ne pourra pas être supporté uniquement par les entreprises.
Voté au Sénat en avril dernier, une loi prévoit des dépistages obligatoires pour les conducteurs de bus et de cars, mais pas pour les chauffeurs de marchandises.
C'est l'image de la soirée Donald Trump aux côtés d'Emmanuel Macron au château de Versailles. Donald Trump qui signe l'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. Les deux pays doivent encore négocier pendant 2 mois. L'Iran s'engage notamment à diluer ses stocks d'uranium enrichi en échange de la levée des sanctions. Le détroit d'Hormuz sera instantanément rouvert, promet le médiateur pakistanais. La chaleur s'abat sur la France et nous ne sommes pas au bout de nos peines. On devrait atteindre les 40 degrés aujourd'hui, le pic attendu entre dimanche et lundi. 40 degrés pour la fête de la musique. Ce sera a priori le cas dans le Maine-et-Loire où des concerts sont d'ores et déjà annulés à Angers, mais aussi la fête du vélo en Anjou. 25 000 cyclistes inscrits pour cette fête populaire, mais la sécurité n'était plus au rendez-vous, explique Rodolphe Ligonnière, l'un des organisateurs.
Là, au niveau des températures, au soleil, on serait autour de 45-46 degrés. Donc, on est vraiment sur des températures qui sont vraiment dangereuses pour des familles avec des enfants sur ce type de parcours. C'est la particularité de la fête du vélo en Anjou, c'est que ces routes départementales peu ombragées, on va avoir beaucoup plus chaud naturellement que si on était dans des petits chemins ou sous la forêt, par exemple. Donc, il est préférable effectivement pour nous d'annuler, pour préserver la santé et puis toute l'organisation autour, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, d'associations, et on essaie d'être beaucoup plus vigilant, évidemment.
Le parquet de Paris fait appel de la relax prononcée avant-hier pour un ex-animateur périscolaire d'une école parisienne qui était le premier jugé dans ce scandale, jugé pour harcèlement et agression sexuelle sur mineurs. Le tribunal correctionnel avait considéré que l'infraction n'était pas assez caractérisée. On en vient à cette étude qui nous apprend que le consentement des patientes est encore largement entravé lors d'examens gynécologiques. Étude de l'association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques dans laquelle 8 femmes sur 10 rapportent au moins une atteinte à leur consentement pendant une consultation ou un examen, des touchés non prévus, sans autorisation, par surprise, des douleurs aussi. Une victime a accepté de témoigner au micro RMC d'Inès Zegloul.
Par où commencer ?
C'est pas évident.
Rire nerveux, Caroline évite de nous regarder dans les yeux. Elle retrace son parcours, l'un de ses premiers passages en cabinet gynécologique. Elle a 21 ans.
Elle a commencé à me toucher les seins comme ça, en fait. Elle m'a pas dit, je vais pratiquer une palpation mammaire.
Puis il y a eu le personnel de la maternité, les mains qui s'occupent d'elle lors de son premier accouchement.
La sage-femme m'a fait une expression abdominale sans m'avertir. On appuie très fort sur le ventre, très violemment.
L'impression d'être un cobaye, dit-elle.
Mais inférieure au médecin. Sur le fait, on peut absolument rien dire, rien faire.
Alors elle le refoule jusqu'à ce rendez-vous il y a 3 ans.
C'était un examen de postpartum. Il a fait un toucher vaginal. Ce praticien a décidé de lui-même, sans m'avoir averti auparavant, sans qu'en fait ce toucher vaginal ne soit inscrit au protocole de l'examen. Je me suis mise à mon bureau, j'ai pleuré. Je me souviens que j'étais complètement perdue.
Et 3 ans plus tard ?
Bah, 3 ans plus tard, bah, je devrais faire des examens et j'ai pas envie de les programmer pour l'instant.
Vous n'arrivez pas ?
Non, ça me rend malade.
Caroline a porté plainte contre son dernier praticien. J'ai une fille, conclut-elle dans un soupir, et son futur gynécologique me terrifie.
Un témoignage recueilli par Inès Zegloul pour RMC. La Coupe du Monde, avec une entrée en lice ratée hein, pour le Portugal, tenu en échec par la République démocratique du Congo. Match nul 1-1, plombé par la contre-performance de Cristiano Ronaldo, la star qui n'a pas vraiment existé hier soir, Xavier Grimaud.
Oui, il reste bien sûr l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais hier, pour sa 6e Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo n'a pas vraiment existé. Les Congolais Charles Piquel et Samuel Moutoussami semblaient les premiers surpris.
C'est Ronaldo, c'est quelque chose, c'est une légende pour le foot.
Ouais, il y a une certaine fierté aussi à avoir muselé Ronaldo.
Ils n'ont pas vraiment eu à forcer. Ronaldo n'a touché que 25 ballons dans la rencontre pour 3 tirs seulement, dont 0 cadré. Son sélectionneur, Roberto Martinez, l'a pourtant laissé toute la rencontre, telle une statue que l'on ne peut pas déboulonner, même si à 41 ans, Ronaldo a semblé faire son âge.
I think we treat every player in the same way.
Nous gérons tous les joueurs de la même manière, match après match. Cristiano est évalué selon sa forme et son ressenti, pas par son âge. Dans ce type de match fermé, il faut utiliser ses qualités. Il attire les défenseurs et reste important dans la surface. Chaque joueur a un rôle et Cristiano est essentiel pour finir les actions.
Essentiel, vraiment, Ronaldo n'a plus marqué depuis maintenant 10 matchs dans un grand tournoi avec la sélection portugaise.
Un contraste avec l'Angleterre qui a parfaitement réussi son début de mondial. Victoire 4-2 contre la Croatie grâce à un doublé notamment du capitaine Harry Kane. Cette nuit, le Ghana s'est imposé 1-0 contre le Panama. Et puis la Colombie l'a emporté 3-1 contre l'Ouzbékistan.
Et puis le Quintet, Clara, c'est à Paris-Longchamp ce soir, 20h15.
Et la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 3, Too Darn Quick. L'outsider, c'est le numéro 2, Cozy Bear, le 3 et le 2.
C'était le journal de Clara Gabi. Il est 7h37 et c'est le moment. Mais oui, vous l'entendez, c'est le moment. C'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match sur RMC. Et vous entendez tous les zéros qui défilent. Oui, parce que vous le savez, on rajoute 500€ à chaque but marqué pendant cette Coupe du Monde. Avec les buts de la nuit, on est à 67 500€. 67 500€, retenez bien ce chiffre, parce qu'il y aura un tirage au sort aujourd'hui. Et si vous connaissez le montant de la prime, alors elle est pour vous. Pour jouer, vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il est 7h38.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on l'a appris hier soir, la préfecture de police de Paris a décidé d'interdire le concert et les prises de parole militantes organisées par LFI pour la fête de la musique. Place de la République, les Insoumis qui annoncent un recours. Bonjour Alma Dufour.
Bonjour.
Vous êtes députée LFI de Seine-Maritime, la préfecture qui met en avant un risque important de débordement des intervenants connus pour leur position hostile aux forces de l'ordre. Vous nous dites dans un instant pourquoi cette décision vous révolte. Le mot est juste.
Le mot est juste.
Le mot est juste. Mot est juste. Et vous, au 32-16, vous n'hésitez pas évidemment à réagir. Qu'en pensez-vous de cette interdiction? Le 32-16 ou le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC, il est 7h42. Tiens, je vous rappelle qu'il vous reste 6 minutes pour tenter de remporter la prime de match. Elle est actuellement de 67 500. Pour vous inscrire, vous envoyez tout de suite but au 7-32-16. But au 7-32-16. Et retenez bien ce chiffre, 67 500 euros. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui avant 18h. 7h42, la politique et cette interdiction de ce concert militant d'LFI lors de la fête de la musique de dimanche soir. Est-ce que la fête de la musique, c'est la fête de la musique ou c'est une fête politique, Alma Dufour? Vous êtes députée LFI de Seine-Maritime. Pourquoi ce ne serait pas juste la fête de la musique dimanche?
Et c'est la fête de la musique parce qu'en fait, c'est surtout un concert qu'on organise. Hein. Donc en fait, déjà, ce qui est très, très, très affligeant, c'est le niveau d'amateurisme de la préfecture de Paris, puisqu'on a lu évidemment l'arrêté d'interdiction qui est motivé par la présence de gens qui ne performent pas à ce concert. Donc très concrètement, ils visent des artistes qui ne sont pas dans la programmation.
Mais qui seront présents, qui devaient
non,
être présents.
Non,
ils évoquent par exemple Médine.
Mais non. En fait, il y a une marche antiraciste plus tôt dans la journée à 14h à Barbès à laquelle se joignent beaucoup de personnalités.
Qui elle est autorisée d'ailleurs.
Qui elle est autorisée. J'invite tout le monde qui est concerné par la montée du racisme et des agressions racistes en France à se joindre à nous. C'est à l'appel de Bali Bagayoko, du coup, notre nouveau maire de Saint-Denis. Non, il y a effectivement des personnalités qui se rendront à cette marche. Donc, je crois Médine, Assa Traoré, qui sont citées dans l'interdiction de la préfecture, mais ce n'est pas du tout les artistes qui vont performer le soir même place de la République, donc on est consterné, on y voit une commande politique, parce que nous on est en plus en discussion avec la préfecture, évidemment depuis au moins 2 mois. On ne fait pas un concert place de la République à Paris, avec tout ce que ça implique en termes de sécurité, d'investissement, etc., sans avoir eu l'autorisation préalable des services de l'État, c'était le cas.
Et vous donc, les aviez prévenus, aviez-vous eu pour autant sûr. L'autorisation, c'est-à-dire les services de l'État disent, oui, on était prévenus, on a reçu des lettres.
Mais évidemment, enfin je veux dire, sinon on peut pas faire ça, on peut pas engager de telles dépenses, et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on offre un spectacle, on offre un concert gratuit d'artistes quand même de haut niveau, d'artistes qui se produisent dans tous les festivals de France, à la jeunesse notamment, parce qu'on a fait une programmation ciblée aussi sur
après,
les jeunes.
Après, pardon, je vous arrête tout de suite, parce que vous dites, vous avez commencé par dire, c'est surtout un concert. Oui, mais c'est pas que un concert.
C'est un concert.
Non, vous avez dit la phrase, c'est surtout un concert.
C'est un concert qui véhicule des valeurs antiracistes.
Telle qu'elle était annoncée, c'était prise de concert et
prise de parole
militante.
Il devait y avoir 3 prises de parole. Il doit y avoir 3 prises de parole. Enfin, c'est vraiment
pas du tout.
Mais est-ce
que vous seriez prêt à annoncer à ça en disant, fête de la musique, ok, on fait un concert.
Mais en fait, en même temps, il y a aucun article de la Constitution ni aucune loi qui interdit à des gens militants de s'exprimer dans la rue dans le cadre de la fête de la musique. La fête de la musique, justement, le principe, c'est vraiment que c'est ouvert à tous, que c'est gratuit,
exactement,
et que tout le monde peut l'organiser. Dans ce cas-là, pourquoi la préfecture de Paris n'interdit pas un concert qui se tient à place du Trocadéro, si mes informations sont bonnes, qui est un concert organisé par des soutiens de la politique du gouvernement de Netanyahou? C'est assez choquant, c'est un concert qui est destiné
le soir de la fête de la musique,
à redorer l'image d'Israël en plein génocide. Si on va commencer à discuter de qui a le droit de faire un concert ou pas, je peux vous dire qu'il y a quand même
vous
pas mal de choses.
Vous demandez l'interdiction de ce concert? J'ai jamais entendu parler de ce concert,
Je vous le dis, vous pourrez vérifier. Non, je demande pas l'interdiction, parce qu'en fait, on n'en est pas
c'est
là.
C'est un concert de soutien à Netanyahou?
Oui.
Dimanche soir.
Un concert de soutien à Israël. C'est pas marqué soutien au gouvernement israélien actuel.
Oui, mais
évidemment.
Alors ça veut dire que vous estimez effectivement que le soir de la fête de la musique n'est pas un soir qui doit être politique. Donc en fait,
est-ce que j'ai demandé l'interdiction? J'ai pas du tout demandé l'interdiction. Nous, on veut que notre concert ait lieu. On veut que notre concert ait lieu. Je pense qu'il est attendu par beaucoup de jeunes. C'est un concert gratuit. Regardez, on en est aujourd'hui. La gauche, et notamment la France
Insoumise. Gratuit, c'est la fête de la musique.
Oui,
la musique, par principe,
ce que je veux dire, c'est que les artistes qui performent n'auraient pas performé gratuitement si on n'avait pas payé les déplacements, si on n'avait pas fait des frais pour organiser un système façon. Je veux dire, nous, on en est pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de notre poche. Tout ça pour faire plaisir aux gens. Enfin, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu
Emmanuel, fort de gâteau. Emmanuel, vous nous appelez de Bordeaux, en Gironde. Vous avez 47 ans. Vous êtes assistant juridique. On fait ça pour faire bonjour. Plaisir aux gens. Voilà ce que nous dit Alma Dufour. Et aux jeunes. Est-ce que vous dites merci?
Ah, moi, je dis pas merci du tout. C'est très instructif ce que cette dame nous apprend. Voilà, on a l'habitude des coups d'éclat de LFI, de Monsieur Bakayoko, récemment, la récupération foireuse, pardon pour le vocabulaire, tout aussi récemment du maillot de l'équipe de France. Mais moi, au-delà de ça, il y a une question que je me pose, qui est toute simple, par rapport à LFI, qui ressemble plus à une nébuleuse qu'à un parti politique. C'est qui finance et comment?
Bah, vous savez quoi, je pose la question tout de suite à Alma Dufour. Qui finançait ce concert?
Bah, les adhérents. On a un parti politique avec des financements. C'est tout simplement ça. Et vous savez, monsieur, la loi de financement des partis politiques, heureusement en France, est bien plus stricte et bien plus encadrée qu'aux États-Unis, par exemple. Ça n'empêche pas des fois qu'il y ait des affaires comme l'affaire Big Malion, par exemple, qui visait la droite, ou certaines affaires concernant l'affaire Alstom, concernant monsieur Macron et sa campagne de 2017. Mais nous, si vous regardez, on n'a jamais eu de problème d'ingérence étrangère, de financement douteux. Je vous rassure, il n'y a aucune multinationale du CAC 40 qui a vraiment envie, malheureusement pour nous, qu'on arrive au pouvoir parce qu'on est là pour la justice sociale. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment les cotisations de nos adhérents qui sont très contents justement d'offrir un concert à la jeunesse d'Île-de-France.
Réponse d'Alma Dufour. Et Emmanuel, je crois que vous évoquiez aussi, vous parliez des éventuelles questions de Bali Bagayoko. Une question pour vous, Alma Dufour. Il a déclaré hier dans la presse que siffler la Marseillaise, je cite, siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire, et il précise parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici, dans les grands stades, sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire, on est déjà, il dit que c'est un droit et pas que c'est ce que nous on aimerait faire. Parce que je rappelle quand même que la
vous
France.
Vous ne le souhaitez pas, vous ne trouvez pas souhaitable de siffler la Marseillaise.
Je vous dis par exemple au meeting de Saint-Denis il y a à peine 10 jours, on a tous chanté la Marseillaise. Donc on chante la Marseillaise à la fin de tous nos meetings, tous les meetings de la France Insoumise. On brandit des drapeaux français, donc on a le mot France d'ailleurs dans notre parti.
Rôle,
on
est
un parti extrêmement patriote.
De condamner le fait de siffler la Marseillaise.
Parce qu'à un moment donné, il faut savoir si on est Charlie ou si on n'est pas Charlie. Je veux dire, est-ce qu'on a le droit de critiquer, de blasphémer même, c'est-à-dire le rapport, c'est qu'en fait c'est sacré la Marseillaise, que ça représente l'identité nationale. Est-ce que pour des raisons politiques, des raisons de critique de l'action d'un État, on peut estimer que des gens ont le droit de siffler la Marseillaise? Moi, c'est pas mon cas, j'ai jamais sifflé la Marseillaise, et comme je dis, je la chante à tous les meetings, et tous les membres de la France Insoumise, y compris Bali Bagayoko, la chantent et l'ont chantée il y a 10 jours. Mais c'est inquiétant. Imaginez-vous dans un autre pays, on dirait est-ce qu'on doit poursuivre pénalement, parce que c'est ça le débat qui a été même soulevé.
Non, mais là la question n'était pas posée. Question de est-ce qu'on condamne le fait de siffler la Marseillaise?
Moi, je vous réponds que c'est pas ce que nous faisons. Nous sifflons jamais la Marseillaise, nous la chantons. Après, je pense que des gens ont le droit légitime de critiquer la politique de l'État français.
Parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici, dans les grands stades, sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Pardon, j'ai pas compris.
Eh bien, je pense qu'il évoque le cas des binationaux. Je pense qu'il évoque le cas des binationaux
qui
français.
Qui sont... on peut comprendre du coup qu'ils sifflent la France.
Non, c'est pas ça, mais on peut comprendre aussi que sur certains pays, en tout cas, le gouvernement et ces dernières années, je pense notamment à l'Algérie, a considérablement manqué d'égard au ressenti en fait des personnes binationales qui peuvent avoir un affect.
Et vous trouvez pas que l'Algérie elle a manqué d'égard vis-à-vis de la France là?
Bah franchement, honnêtement, vous voulez que je vous refasse l'historique?
Vous parlez de Christophe Glaize, vous voulez?
Non, mais l'historique de la relation franco-tunisienne depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron est quand même honnêtement un historique très compliqué pour la Macronie.
Mais vous trouvez qu'aujourd'hui il est davantage souhaitable d'avoir le fonctionnement démocratique de l'Algérie que de la France?
Pas du tout. Pourquoi vous dites ça?
Bah non, parce que vous dites
la France. Vous voyez, à chaque fois, et par exemple les États-Unis, est-ce que vous trouvez souhaitable d'avoir le président Trump? Et pourtant, je vais pas dire qu'il faut.
Ça fait deux jours qu'on se pose tous la question de savoir s'il fallait l'inviter à Versailles.
Insulter le président Trump qui vient signer à Paris un accord. Je veux dire, les relations diplomatiques, c'est plus compliqué que juger avec un score Nutri-Score les régimes démocratiques.
Je veux dire, est-ce qu'on peut justifier?
Est-ce qu'on se pose les mêmes questions justement sur l'Arabie Saoudite, sur le Qatar? Il y a énormément de pays qui ont des gros problèmes de droits humains, de respect des droits de l'homme, de régime démocratique. La question, c'est qu'en France, on a une très grande communauté binationale concernant les Algériens. algérien et que notamment dans la personne de Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ce pays a fait l'objet d'une surfocalisation et d'attaques constantes qui sont très maladroites, si c'est... Je vais m'arrêter là, par rapport au ressenti d'une partie des binationaux.
Et donc, vous comprenez que ces gens-là, en tout cas, vous ne condamnez pas l'idée que...
Je condamne pas, moi, encore une fois, je ne le fais pas. Et encore une fois, il y a beaucoup de binationaux dans nos meetings qui chantent la Marseillaise. Ils chantent aussi l'Internationale communiste, d'ailleurs, si ça vous intéresse.
Effectivement, il y aura les deux. Et puis, ça peut être une autre manière de faire la fête de la musique. Donc, merci en tout cas, Alma Dufour, d'être venue répondre à mes questions ce matin et à celle d'Emmanuel. Il est 7h51. Cécile Duflo est rentrée dans ce studio. C'est le jour de la Voix de Gauche. Bonjour, Cécile.
Bonjour.
Cécile, vous êtes ancienne ministre. Vous êtes l'actuelle patronne d'Oxfam, la canicule. On le savait, mais dans un rapport que vous publiez aujourd'hui, vous en avez la preuve.
Oui, beaucoup de chiffres, mais un terrifiant. Les fortes chaleurs augmentent de 7% le risque de mourir d'un infarctus. Il faut s'en saisir et il faut agir maintenant.
Vous nous le dites dans un instant, 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la Voix de Gauche, mais d'abord le bonus. Victor, ce matin, on lance le plus gros festival de France.
Eh oui, et le Hellfest 2026 démarre ce soir. Sachez que j'ai reçu des messages de menaces de Mathieu Béliard pour faire cette chronique. Mathieu qui sera à Clisson parmi les 280 000 spectateurs entendus pour voir le groupe Iron Maiden que vous entendez, mais aussi The Offspring. Tout plein d'autres artistes, évidemment, sur la dizaine de scènes du Hellfest. Il y aura aussi cette immense statue inaugurée aujourd'hui, 7 mètres de haut, à l'effigie d'Ozzy Osbourne, chanteur iconique de Black Sabbath, père du métal, décédé récemment.
RMC, Apolline Matin,
Voix de Gauche,
Voix de Droite.
7h53 et c'est jeudi, c'est la Voix de Gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre mais vous dirigez désormais Oxfam France et votre ONG publie ce matin un rapport sur les conséquences des canicules sur la santé.
Écoutez, on publie toujours des très bons rapports mais je dois dire que celui-là, il m'a filé même personnellement une claque. Ça fait 25 ans que je suis écologiste, on parle des conséquences du dérèglement climatique sur la santé mais là maintenant c'est documenté, ce rapport c'est uniquement des travaux scientifiques, on l'a fait avec des experts et des données officielles. Et donc la chaleur aujourd'hui en France, c'est 5398 décès par an. Et la dernière canicule a tué plus de moins de 45 ans que de plus de 45 ans.
Donc ça touche les jeunes.
Ça touche les jeunes, ça touche les enfants. Au cours d'une canicule de plus de 7 jours, les cas d'insuffisance rénale aiguë augmentent de 70%. Donc en fait, ça aggrave les maladies chroniques, mais pas que. Ça fait augmenter le risque d'une naissance prématurée de 26%. C'est des chiffres qui sont vraiment très importants et qui devraient tous à la fois nous saisir et nous faire réagir.
Alors il y a un risque particulier aussi avec les feux de forêt. Ça c'est aussi important, les dégâts environnementaux, mais aussi sur la santé justement d'ailleurs.
Oui, les feux de forêt, ça provoque une augmentation des particules fines. Et donc l'augmentation des particules fines, c'est l'augmentation de l'asthme. Les méga feux qui ont eu lieu dans les Landes en 2023, c'est plus que la circulation des camions en France. Donc en fait c'est très important. Mais il y a aussi les maladies infectieuses. Et là on est au bord d'un sujet très difficile. En parlant, je me dis, c'est vraiment, on est une dose après l'autre, mais en fait, la réalité, c'est que depuis 2004, le moustique tigre a colonisé 79 départements en France, celui qui apporte le chikungunya. Et en 2025, il y a eu plus de cas de chikungunya en Corse que dans toute l'UE, en Corse et en France, pardon, que dans toute l'UE ces 10 dernières années. Donc, on est dans une situation vraiment où... chaque degré d'augmentation de la température, ça augmente le risque d'infection et par exemple le risque d'infection aux salmonelles. Enfin, le spectre est quand même très très large. On n'est pas prêt, on n'est pas préparé.
On est tous vulnérables et quelles sont les conséquences donc ?
Et alors, on est tous vulnérables, mais plus on est pauvre, plus on est exposé. Et plus on est une femme, plus on est en danger. Chaque augmentation de température de 1 degré augmente le risque d'AVC de 3,8%. Et les femmes hospitalisées pour AVC meurent 65% plus souvent que les hommes. Donc ça rajoute une inégalité sur les inégalités de santé qui sont déjà profondes en France, puisque si vous faites partie des 5% d'hommes les plus riches, vous avez 7 fois moins de risque de mourir avant 50 ans que vous êtes si vous faites partie des 5% les plus pauvres. Et les plus pauvres sont encore plus exposés à la chaleur, notamment du fait de leur emploi.
Avec la grande question, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, on sonne la mobilisation générale. Non, là, je pense que vraiment, il faut être extrêmement conscient du risque qui est devant nous pour tout le monde. Avec plus 3 degrés de réchauffement, ce qu'on nous annonce, les fortes chaleurs causeraient 2,5 fois plus de morts qu'avec 1,5 degré. Donc, tout ce qu'on fait pour lutter contre le réchauffement climatique est utile. Mais surtout, on sait qu'on a besoin d'investir. Et donc, je voudrais que ce chiffre-là, il soit bien dans la tête de tout le monde. Financer l'adaptation du système de soins à tous les enjeux que j'ai dit d'ici 2050, c'est 17 mois des bénéfices de Total Energy. Donc, ce n'est pas une somme hors de portée. C'est vraiment une question de volonté politique. Et là, maintenant, tout de suite, et notamment avec cette vague de canicule, il faut insister sur la prévention de tout le monde, des plus jeunes, mais aussi des adultes. Parce que, je le redis, les moins de 45 ans sont plus morts de la canicule de mai que les plus de 45 ans.
Merci Cécile Duflot, Voix de Gauche sur RMC. Demain, place au débat. Voix de droite, Voix de Gauche, vous serez face à Charles Consigny. Il est 7h57. Dans un instant, la météo évidemment et le journal de 8h largement consacré à cette vague de chaleur qui s'installe sur la France. Il y aura aussi l'économie avec Emmanuel Le Chypre qui nous dira que le pouvoir d'achat des Français est en berne. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.